Répète que je suis content d'être là. Hein, voilà. C'est un plaisir. Ça me rappelle quelque part un peu des souvenirs. Alors bon, j'étais effectivement, je suis français. Ma famille a émigré depuis la Belgique en France au XVIe siècle. Donc c'est pas tout à fait hier. Mais quand j'étais adolescent, j'ai habité Valenciennes et on faisait souvent des incursions. Bon, à Mons plutôt, hein, évidemment, mais peu aussi dans la région. Et donc ça me rappelle des souvenirs de choses qu'on faisait peut-être le week-end quand on avait un petit moment avec mes parents. Voilà. Donc, ce matin, je vais commenter avec vous différents passages de la première épître aux Corinthiens. Tous, c'est entendu, nous avons de la connaissance. Ça se trouve là, dans l'épître aux Corinthiens. Et puis, je vais lire pour commencer donc quelques versets qui se trouvent à la fin du chapitre 13 de la première aux Corinthiens. L'amour ne disparaît jamais. Les prophéties, elles seront laissées de côté. Les langues, elles cesseront. La connaissance sera laissée de côté. En effet, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais lorsque viendra ce qui est complet, ce qui est partiel sera laissé de côté. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu adulte, j'ai laissé de côté ce qui appartenait à l'enfant. De même, nous voyons pour le moment au travers d'un miroir de mauvaise qualité, mais alors ce sera face à face. Pour le moment, je connais en partie, alors je connaîtrai pleinement autant que j'ai été connu pleinement. Bon, j'ai pris le risque de vous proposer cette traduction de mon cru qui est un petit peu lourde, hein, c'est un petit peu laborieux. Et en fait, pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, dans la plupart des traductions, on essaye d'avoir quelque chose en bon français et on perd une partie de ce que Paul essaye de dire parce qu'il réemploie les mêmes mots qui est difficile de traduire par les mêmes mots en français. Mais là, j'ai fait l'effort de mettre les mêmes mots. Et du coup, évidemment, c'est un petit peu... Voilà, c'est laborieux, comme je disais. Mais donc, ça, c'est le texte de Paul que je vous ai proposé. Et alors, le verset qui, pour moi, illumine ce passage, c'est celui-là. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu adulte, j'ai laissé de côté ce qui appartenait à l'enfant. Et j'aime bien ce verset, ce verset qui me parle, parce qu'en fait, il souligne que la connaissance, le raisonnement, enfin des choses qui paraissent un peu abstraites, le mode de pensée, c'est quelque chose qui relève enfin, de la maturité, de la maturation, comme on voudra, et pas seulement de l'apprentissage. Alors, dans notre société, on est persuadé que, voilà, la connaissance, elle s'accumule de génération en génération, qu'il suffit d'aller à l'école pour acquérir des connaissances. Et hier, on a passé tout un temps, comme Jean-Claude l'a rappelé, à parler de l'intelligence qui a été stockée dans des machines, hein, les choses qui peuvent être stockées dans des machines. Machines qui font des calculs, qui agissent, qui sont même capables d'écrire des chansons, voire des prédications. Enfin, cette prédication de ce matin, elle sort de ma tête, elle ne sort pas d'une machine. Mais c'est possible. Ce sont des machines qui calculent très vite et elles ont leur propre mode de raisonnement. Et pourtant, je pense que donc, tout ça, c'est de l'intelligence qu'on apprend à l'école, qui est stockée dans des machines et qui, de génération en génération, s'accroît. Pourtant, je pense que la société autour de nous aujourd'hui n'est pas spécialement intelligente. Beaucoup de gens sont bornés, ils se méfient des autres, ils ont du mal à discuter avec quelqu'un, surtout si cette personne ne pense pas comme eux, Beaucoup de gens sont prêts à voter pour des leaders politiques immatures, qui mentent à jet continu et qui cherchent surtout à satisfaire leurs égos surdimensionnés. Je pense pas à un pays en particulier, c'est assez général. Nous avons beaucoup d'intelligence à notre disposition, mais nous n'avons pas tellement avancé quant à la maturité. Cette maturité, elle a affaire à notre manière de nous comporter avec les autres, de les aimer. Ce que laisse entendre Paul dans le texte que j'ai lu, de les écouter, de les prendre en compte, ou bien, au contraire, de les ignorer, de les écraser, de les tenir pour quantité négligeable. Et à la fin de toute chose, ce que nous dit Paul dans le texte ce matin, la seule chose qui restera, justement, c'est cette qualité relationnelle, à laquelle, donc, nous devrions tous aspirer. Alors Paul, dans le chapitre 13, dans son ensemble, il ne prononce pas le mot de Dieu. Il ne prononce pas directement le mot de Dieu. Mais quand il parle de la manière dont on a été connu pleinement, bien évidemment, on comprend qu'il nous parle de Dieu et de son amour total qui est prêt justement à nous combler pleinement. Et pour autant que nous nous approchions, modestement d'une telle qualité d'amour, c'est ainsi que nous apprenons à raisonner comme des adultes. C'est cela, être un adulte, c'est se rapprocher de cette connaissance pleine d'amour de Dieu à notre égard. Alors, bon, je vous raconte ça, ça me touche particulièrement, personnellement, parce que, en fait, ça rejoint quelque chose de ma biographie personnelle. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, et ça ne m'empêchait pas d'accumuler des connaissances. Quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent, quand j'étais jeune, mais peut-être pas adulte. Alors, autant le dire, j'étais un élève plutôt doué. Je ne vais pas me vanter, je vous décris la réalité. Vous pouvez relire, vous pouvez interroger s'ils sont encore vivants mes anciens enseignants, ils vous le confirmeront. Je comprenais vite ce que disaient les enseignants, et puis année après année, au fur et à mesure où les questions abordées devenaient de plus en plus élaborées, je me suis détaché des autres élèves. J'ai fini par réussir des concours très sélectifs en mathématiques. J'ai réussi ce qu'on appelle en France l'agrégation de mathématiques du premier coup. Facilement, finalement. Et puis après avoir commencé à faire de la recherche en mathématiques, j'ai bifurqué vers des postes d'ingénieur en génie civil, puis finalement vers la recherche, comme ça a été rappelé, en sociologie, où j'ai passé le doctorat, l'habilitation à diriger les recherches, etc. etc. Enfin, je vais pas vous... J'ai arrêté là. Juste pour vous donner un peu une idée. Mais qu'en était-il de ma vie affective ? Ah, voilà, autre question. Qu'en était-il de mon rapport aux autres ? Je dirais que sur ce chapitre, il me restait presque tout à apprendre. Alors mes parents, je n'ai pas eu de conflit spécialement avec eux, mais enfin, ils n'étaient pas tellement doués pour m'apprendre à vivre et pour m'apprendre à vivre avec les autres. Ils avaient certaines qualités, mais en fait, pas celles-là. Moi, j'étais plutôt renfermé, disons introverti. Introverti, c'est pas une maladie d'être introverti, mais enfin, aller vers les autres n'était pas si facile, et puis vivre avec les autres non plus. Et donc là, je vais faire signe à notre caméraman, s'il fait attention à ce que je dis, et pour l'instant, il est absorbé par quelqu'un qui est son fils, je pense, sa fille. Merci. D'ailleurs, image. Ouais. Et puis donc, Dieu a mis sur ma route divers événements qui m'ont conduit à aller de l'avant. Donc, oui, le mariage, la vie de famille y ont contribué, bien évidemment. Et puis, nous avons eu notre première fille était handicapée, nettement, nettement handicapé, et elle nous a demandé, de fait, de l'aimer jusqu'à l'extrême, et jusqu'à l'extrême de nos forces en tout cas, hein, sans pouvoir espérer grand chose en retour. Enfin, elle est devenue quelqu'un de finalement plutôt autonome, mais ça, on n'en savait rien. Hein. En tout cas, voilà, elle a exigé de nous ça, cet engagement, ben, jusqu'à l'extrême de nos forces. Après ça, il y a eu la vie d'église, la vie professionnelle, tout ça, ça a été l'occasion de pas mal de relations, je dirais, transformatrices. Et puis de moments difficiles qu'il a fallu affronter. Est-ce que tout ça, ça m'a conduit à parler, à penser, à raisonner différemment ? Eh bien, oui, en partie. En partie, comme dit l'apôtre Paul, nous connaissons en partie. J'ai aussi côtoyé, pendant le même temps, des jeunes hommes et des jeunes femmes qui avaient fait des études d'ingénieurs plutôt brillantes et qui étaient démunis face à la vie, sans trop savoir finalement ce qu'ils faisaient là. Bon. Mais finalement, c'est surtout après 50 ans, au moment où mes enfants commençaient à devenir adultes et puis donc avaient moins besoin de moi, que j'ai vécu, année après année, des occasions de vivre progressivement un tournant majuscule. J'ai eu l'occasion de pratiquer la marche et la marche méditative, je vais vous expliquer, lire la parole de Dieu, lentement, la mâcher, si on peut dire, la mâcher, la repasser tout en marchant, parfois une heure, parfois plus, parfois plusieurs jours de suite, et puis finalement, 3 mois de suite, à un moment donné, depuis chez moi, à l'époque j'habitais près de Paris, jusqu'au bout de l'Espagne, à Saint-Jacques-de-Compostelle, et puis encore quelques jours de marche jusqu'à l'océan Atlantique. Et puis là, j'ai eu l'occasion, en fait, au fil de ces années, de me débarrasser de toute une série de préoccupations inutiles. Je rejoins l'image qu'emploie l'apôtre Paul quand ce que je vous ai lu, c'est « laisser de côté ». J'ai laissé de côté ce qui était l'enfant. En fait, j'ai pas trouvé vraiment de mot français, peut-être ce qui se rapproche le plus, c'est « désactiver », comme si on coupait le contact, « désactiver ». Rendre inutile comme une branche morte qui tombe. Voilà, j'ai laissé de côté ce qui était de l'enfant. J'ai marché et j'ai eu l'occasion alors de me souvenir de nombreux événements du passé et de les laisser derrière moi. J'ai laissé de côté aussi d'autres choses, des désirs de maîtrise, pour m'ouvrir à autre chose qui est l'inattendu de Dieu, des événements imprévus, des rencontres fortuites. J'ai pensé à des ambitions qui étaient les miennes, mais des ambitions mal placées, des désirs de reconnaissance qui n'avaient pas lieu d'être, des inquiétudes quand les événements ne tournaient pas comme je voulais, des attentes exagérées à l'égard des biens matériels. Bon, voilà, tout ça, quand on marche au fil des jours, il y a des tas de choses qui repassent, et j'ai laissé ces choses-là, enfin, tranquillement, comme ça, sur le bord de la route, des choses que j'ai laissées. Et au fond, j'ai laissé ça comme toute une série de choses qui m'intoxiquaient. Je pense que la société autour de nous, elle nous donne beaucoup, mais elle nous intoxique aussi beaucoup, en nous persuadant qu'on a besoin de toute une série de choses dont, en fait, on n'a pas forcément besoin. Et une fois, un de ces jours-là, en marchant, je me suis dit, tiens, à l'occasion d'un texte que je lisais, je vais faire la liste de tout ce qui me manque. Mais alors, de tout ce que je considère qui me manque. Alors là, je ne me suis fixé aucune limite, y compris les choses dont je n'oserais même pas parler ici du haut de la chair. Enfin, des choses, j'ai fait la liste de tout ce dont je me disais que ça me manquait, y compris les choses un peu ridicules. Donc j'ai marché, je m'arrêtais de temps en temps pour écrire. J'ai marché pendant 1h30, et pendant 1h30, j'ai écrit toute une série de choses qui me manquaient. Et puis, on est arrivé, à un moment donné, où on faisait la pause. Je me souviens bien, je me souviens de l'endroit où c'était. Je me suis assis, j'ai relu ma liste, et puis j'ai ri. Je me suis dit, alors si c'est vraiment ça le tout de ce qui me manque, je peux passer au point suivant. Est-ce que ça vaut la peine de passer autant d'énergie à penser à ces choses-là? Non. Rien que de l'avoir écrit, ça a pris, ça a dégonflé complètement l'affaire. J'ai une fois d'ailleurs rencontré un pèlerin sur le chemin, un gars qui marchait comme moi, et il m'a dit que il marchait pour la deuxième fois, donc je lui ai demandé un peu ce qui lui restait de la première fois. Il m'avait dit, la première fois, une fois que j'étais arrivé au bout, je me suis rendu compte que j'avais assez. Pas la peine d'avoir plus. J'ai pas rencontré beaucoup de gens dans ma vie qui m'ont dit ce genre de choses. J'ai assez. C'est une expérience très forte. Et donc j'ai laissé tomber ce qui était de l'enfant comme une vieille peau qui ne servait plus à rien, et j'ai commencé à parler, à penser, à raisonner d'une manière nouvelle. Manière toujours en partie, mais plus mûre. Et je vous donne un exemple aussi, ça m'était arrivé, mais je pense que ça vous arrive aussi à chacun d'entre vous, d'être obsédé par certaines questions qu'on a envie de poser à Dieu. Mais pourquoi, et comment, et... Alors, Dieu n'a pas du tout répondu à mes questions, par contre mes questions ont disparu. Merci. Et pendant ce temps, j'ai continué à croiser dans mon travail, et puis même à l'église, des gens qui avaient des moyens à leur disposition, qui maîtrisaient parfois de grands domaines de connaissances, mais qui étaient malheureux, parce qu'ils étaient seuls, parce qu'ils avaient du mal à aimer ou à être aimés. Et oui, même quand on fait profession de foi et qu'on dit qu'on aime Dieu, on peut avoir l'impression, au fond, que Dieu ne nous aime pas ou pas beaucoup. On peut avoir du mal avec nos prochains, ça c'est des choses qui arrivent. Et ces gens qui sont malheureux, ils parlent, ils pensent, ils raisonnent d'une manière particulière. Ils ont du mal à écouter, ils ont du mal à faire confiance, ils sont ouverts aux théories du complot, facilement aigris. Une fois justement, à une étape de mon périple de 3 mois, j'ai rencontré une dame qui m'a dit « Mais moi j'aimerais bien croire, comment vous faites pour croire ?» Je lui ai dit, c'est comme faire confiance à quelqu'un. Ah, qu'elle me fait. Oui, alors moi je fais confiance à personne. Alors quoi, sans doute peut-être des expériences douloureuses, mais peut-être aussi des attentes exagérées à l'égard des autres. Et en tout cas, toutes ces questions d'aimer ou d'être aimé, aucune innovation technique ne peut répondre à ces questions. On pense aujourd'hui que on va être dépassé par des machines qui pensent à notre place. Oui, c'est des choses qu'on entend. Mais le vrai danger, c'est plutôt de perdre le sens de notre vie et de ne pas savoir comment vivre avec les autres et avec Dieu. C'est ça le vrai danger. Il y a des entrepreneurs immatures, et d'ailleurs c'est plus souvent en l'occurrence des hommes que des femmes, qui rêvent de télécharger leur cerveau sur des ordinateurs pour être enfin libérés de leur corps, libérés des autres, libérés de leurs limites, etc. Mais qu'est-ce que ce serait qu'une vie où on ne peut plus se sentir, profiter de la vie, aimer, mais aussi pleurer et espérer? Ce qui m'est arrivé à moi, ce que j'ai vu autour de moi, ça a une portée très générale. Ça concerne tout le monde. Ça concerne ce que chacun peut vivre dans une vie d'église en particulier. Le risque, qui nous guette tous, de confondre l'intelligence formelle, disons l'intelligence officielle, la reconnaissance professionnelle, la performance chiffrée, et de confondre ça avec une vie authentique. Et ça, c'est un risque qui nous guette tous. Et ça nous guette tellement tous que pourquoi est-ce que Paul écrit ce paragraphe que je vous ai lu? D'où ça vient, ça? Qu'est-ce qu'il y avait avant? Pourquoi est-ce qu'il écrit ça? Il écrit ça parce que dans l'église de Corinthe, à laquelle il écrit, il y a des gens qui se dévalorisaient et d'autres qui se survalorisaient. Et c'est pour ça qu'il écrit, ça c'est le chapitre 12, « le Christ est semblable à un corps qui se compose de plusieurs parties. Toutes ces parties, bien que nombreuses, forment un seul corps. Et nous tous, juifs ou grecs, esclaves ou personnes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps par le même esprit, par le même Esprit Saint, et nous avons tous bu de ce même esprit. Donc, première chose qu'il dit, nous tous, juifs, grecs, esclaves, personnes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Donc, le premier mouvement auquel nous sommes appelés, ben justement, c'est de passer par-dessus ces distinctions sociales, juifs, grecs, esclaves, libres. Et alors qu'aujourd'hui, par exemple, eh bien, le fonctionnement spontané, c'est ce qu'on a raconté hier, des réseaux sociaux, c'est au contraire de nous faire vivre un peu dans une petite bulle où on ne rencontre plus que des gens qui pensent comme nous. Mais justement, dans l'Église, la vie d'Église, c'est d'être capable de rencontrer des gens qui ne pensent pas comme nous, qui partagent notre foi, mais qui ne pensent pas comme nous sur tous les points. Première chose que dit Paul. Deuxième chose, alors ça c'est un texte qui est connu, le corps ne se compose pas d'une seule partie, mais de plusieurs. Si le pied disait « je ne suis pas une main, donc je n'appartiens pas au corps », il ne cesserait pas pour autant d'être une partie du corps. Et si l'oreille disait « je ne suis pas un œil, donc je n'appartiens pas au corps », elle ne cesserait pas pour autant d'être une partie du corps. Si tout le corps n'était qu'un œil, comment entendrait-il? Et s'il n'était qu'une oreille, comment sentirait-il les odeurs? En réalité, Dieu a disposé chacune des parties du corps comme il l'a voulu. Il n'y aurait pas de corps s'il ne se trouvait en lui qu'une seule partie. En effet, il y a plusieurs parties et un seul corps. L'œil ne peut donc pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi ». La tête ne peut pas dire non plus aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus faibles sont indispensables. Celles que nous estimons le moins, nous les entourons de plus de soins que les autres. Celles dont il est indécent de parler sont traitées avec des égards particuliers qu'il n'est pas nécessaire d'accorder aux parties plus convenables de notre corps. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur aux parties qui en manquent. Ainsi, il n'y a pas de division dans le corps. Mais les différentes parties ont toutes un égal souci les unes des autres. Si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec elle. Si une partie est honorée, toutes les autres s'en réjouissent avec elle. Oui, le souci commun, les uns des autres, c'est là le point. C'est ça qui distingue l'être humain, en fait. Il est dans une relation ouverte et créative avec son semblable, et il n'est pas en train, pour le coup, de dérouler un programme. Il peut arriver que nous soyons nous-mêmes captés par des stéréotypes et que nous n'ayons plus que des relations routinières avec les autres, comme si nous déroulions un programme, une sorte de programme tout tracé avec nos relations, et puis les choses se répètent comme ça, jour après jour, toujours les mêmes scénarios. Mais c'est là, c'est l'effet ou la marque du péché en nous. L'autre, en général, notre conjoint, notre sœur, notre frère, notre ami, doit continuer à nous surprendre. Et nous devons continuer à nous soucier de lui. Sinon, la relation meurt peu à peu. Dans cette relation de personne à personne, nous pouvons être faibles et vulnérables. Ce qu'une machine ne cherchera pas à être, une machine, elle cherchera à être solide et performante. En tout cas, c'est comme ça qu'on les conçoit, les machines. Si je vous dis que je vous vends une machine qui est faible et vulnérable, je pense que je ne vais pas faire un succès commercial. Non. Il y a même des programmes, aujourd'hui, je l'ai dit, qui sont capables d'écrire des articles, des prédications, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils répètent ce qui a déjà été dit. C'est-à-dire, en fait, ils repèrent des textes qui existent à droite, à gauche, et puis ils font une sorte de plagiat intelligent, et puis, mais dans tout ça, ils n'ont pas d'interlocuteur en vue, ils ne prennent personne en considération, ils ne sont personne, ils ne sont mus par aucune émotion, aucun mouvement vers l'autre. Et ce mouvement vers l'autre, évidemment, c'est quelquefois ce qui nous fait dérailler, évidemment. Ça peut tourner au complexe d'infériorité, de supériorité, ou à la compétition, mais oui. Quand Paul conclut le chapitre 12, il dit « aspirer aux dons les meilleurs ». Je pense que c'est plutôt « aspirer », mais c'est pas forcément dans un sens positif. Il dit « écoutez, si vous voulez, si vous voulez être jaloux les uns des autres, allez-y, si vous voulez aspirer aux dons les meilleurs. Mais moi, je vais vous montrer une voie par excellence. Et cette voie, c'est celle de l'amour mutuel. » Et puis là, Paul est cinglant par rapport à différentes performances, différentes compétences dont on peut se réclamer. Quand je parlais en langue, si je parlais en langue, celle des hommes ou celle des anges, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un métal qui résonne ou une cymbale retentissante. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai la foi la plus totale, celle qui transporte les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens aux affamés, quand je livrerai mon corps aux flammes, s'il me manque l'amour, cela ne sert à rien. Et en lisant les textes écrits par des robots, à première vue, ça peut impressionner. Et puis à deuxième vue, il y a le côté impersonnel et stéréotypé qui frappe. Et en effet, c'est un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. C'est finalement rien de plus que ça. Quand j'entends quelquefois des experts qui pontifient sur la marche du monde et qui n'ont aucune empathie, ben ça me glisse dessus. Et à l'époque de l'apôtre Paul, il y avait déjà des gens qui se mettaient en avant pour leur savoir ou leur savoir-faire, ce que Paul, d'ailleurs, dans l'autre épître aux Corinthiens, la deuxième, il va les appeler « ah oui, vous les super-apôtres, là ». Enfin, oui, avec une ironie assez mordante. Et puis Jésus aussi, dans l'Évangile, souvent, il parle de ceux qui pensent qu'ils sont sages et intelligents. Mais ce n'est pas à eux que la révélation est faite, c'est aux plus petits. Et aujourd'hui encore, c'est le défi que Dieu lance à l'Église. Être le lieu où chacun peut rencontrer l'essentiel. Au-delà de l'efficacité technique, au-delà des performances informatiques, au-delà des objets connectés, au-delà des dispositifs qui nous isolent les uns des autres. Alors j'imagine que forcément il y a des informaticiens dans la salle, mais en fait je pourrais dire ça pour n'importe quel savoir ou savoir-faire. Les rencontres entre professionnels, peu importe le domaine, qu'ils ne parlent que de leur boulot, qui sont en concurrence les uns avec les autres, elles mettent souvent en évidence beaucoup d'immaturité. Notre société essaye de nous formater en nous disant ce qui est prestigieux, ce qui est admirable, ce qui est enviable, ce que nous devrions acheter. Oui, c'est tentant, mais c'est infantile. Quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu adulte, j'ai laissé de côté ce qui appartenait à l'enfant. Devenir adulte, devant Dieu, devant les autres, c'est là notre vocation, c'est un chemin. Chemin qui est sans cesse devant nous. Nous avons à avancer, à marcher toujours. C'est toujours partiel, mais chaque fois que nous laissons tomber des éléments infantiles, eh bien, ça nous aide à mieux percevoir l'essentiel.
La société d'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de nous recentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'amour de Dieu, c'est la communion avec Dieu et avec notre prochain. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Et souvent, on dissocie cette réalité. Et c'est vrai que dans un monde où de plus en plus nous sommes envahis par la technologie, où nous sommes de plus en plus dépendants de la technologie, même si la technologie nous emporte un certain bien-être dans certains domaines, l'excès nuit en tout. Et donc, soyons des hommes intelligents qui savent tirer des leçons de la vie et de l'expérience des uns et des autres et de notre prochain. Voilà, notre frère nous a entretenu sur ce sujet au combien d'actualité. Et avant de conclure par la prière et par... je laisserai la place à notre frère Jean-Claude pour la bénédiction et l'envoi. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être que vous aimeriez poser une question. On pose la question, pourquoi as-tu entamé ce voyage?
En fait, au début, quand j'ai commencé à faire ces marches en lisant la parole de Dieu, je ne pensais pas spécialement à suivre le chemin de Compostelle. Je marchais en lisant. Puis j'avais fait des sessions de lecture de la parole de Dieu, d'abord assis, et puis après en marchant. Voilà. Et puis ça m'avait beaucoup parlé, et donc j'ai commencé à marcher autour de chez moi, comme ça, une ou deux heures, etc. Puis après ça, je me suis dit, mais ce serait bien de pouvoir enchaîner ça sur plusieurs jours. Et puis finalement, le chemin de Compostelle, ben, c'est un endroit où on peut le faire, où c'est équipé, on est équipé pour le faire, et comme ça, marcher de jour en jour. Après, il y a d'autres. Alors après ça, on rejoint des gens qui en général, moi j'étais un peu le seul à lire la parole de Dieu. Beaucoup marchent en pensant, mais sans forcément. Mais beaucoup de gens sont en recherche. Alors, sur des modes très divers, il y a de tout. Il y a de tout, et finalement, l'histoire du chemin, qui était quand même très liée à des éléments de la théologie catholique qui ne me parlent pas beaucoup. En fait, ce n'est pas ça qui est au centre de l'affaire, mais c'est quand même un lieu où on peut marcher et rencontrer d'autres personnes qui aussi prennent du temps pour penser un peu à l'essentiel. Alors, dedans, certains sont chrétiens, d'autres ne le sont pas. Voilà. Et puis, il y a une autre vertu, justement, en marchant plusieurs jours comme ça, et c'est qu'on est obligé, précisément, de s'alléger, d'emporter le strict nécessaire et se convaincre qu'il y a telle chose dont on n'a pas besoin, c'est peut-être la première expérience spirituelle qu'on fait sur le chemin. Et il y a des tas de gens qui ne sont pas forcément convaincus au départ, et donc pendant les premiers jours du chemin, il y a des bureaux de poste qui ont l'habitude de recevoir des colis que les gens renvoient chez eux parce qu'ils ont emporté trop. Et donc on se rend compte qu'avoir trop, ça peut être un inconvénient. Mais c'est une expérience qui parle. Voilà. Et effectivement, quand j'ai marché 3 mois, j'ai emporté la même chose que quand je marche 15 jours. Et juste pour vous donner une idée, quand je suis rentré chez moi au bout de 3 mois, je n'avais pas emporté mes clés, parce que je les avais laissées à ma femme qui m'a rejoint au bout d'un moment. Mais quand je suis revenu chez moi, j'ai retrouvé mes clés. Je ne savais plus quelle clé allait sur quelle porte.